7h-20 sur France Culture, le journal des idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Rosalie Lafarge.
Un cinquième volume de La Correspondance, le tome 2 des œuvres dans la Pléiade et plusieurs lectures contemporaines dont l'une est centrée sur la pensée de la Terre. Nietzsche est de retour.
Oui. Notre époque leur est d'ailleurs sans doute inspirée de sanglantes diatribes montées de fausses idoles et régimes de la post-vérité, retour en force des religions sous leur aspect le plus réactionnaire, emballement de la technostructure. Le magazine littéraire lui consacre un dossier où Bernard Stiegler évoque l'aspect prémonitoire de sa pensée, lorsqu'il souligne par exemple dans Le Voyageur et son ombre le caractère disruptif, ça c'est le mot de Stiegler bien sûr, de la combinaison de la machine à vapeur, du chemin de fer, du télégraphe et de la presse. Il analyse la destruction de la proximité qui en résulte et la transformation radicale du rapport au lointain, exactement ce que nous sommes en train de vivre porté à ses dernières extrémités. Le philosophe explore dans son dernier livre, Qu'appelle-t-on penser avec un A, l'événement anthropocène au prisme notamment de la pensée nietzschéenne et la nécessité de rétablir le lien entre le devenir et l'avenir, lequel passe par une fidélité retrouvée à la Terre, comme le développe Pierre Montebello dans un ouvrage qui vient de paraître à CNRS Éditions, Fidélité à la Terre. L'auteur se réfère à un passage de Zarathoustra qui en appelle à cette disposition d'esprit, à cet engagement à la terre, je cite, à la terre, restez fidèles et n'ayez foi en ceux qui d'espérance supraterrestre vous font discours. Ce sont des contempteurs de la vie. Jadis, l'outrage contre Dieu fut l'outrage le plus grand, mais Dieu est mort. Faire outrage à la terre est maintenant le plus terrible et estimer plus haut les entrailles de l'insondable que le sens de la terre. Dans le contexte d'un réalisme qui s'affirme aujourd'hui en philosophie, le livre s'emploie à développer une métaphysique de la Terre à partir de Nietzsche, soit une hypothèse générale qui prenne en compte ce moment où la Terre est devenue l'enjeu d'une position métaphysique contre les puissants prétendants d'autrefois, Dieu, le bien, l'idéal, la vérité, le sujet. Nul doute que Nietzsche n'aurait souscrit à cette postérité philosophique, lui qui conseillait de n'accorder aucun crédit à une pensée qui ne soit venu en marchant. Et dans le Gai Savoir, à propos des paysages et des jardins sur les collines autour de Gênes, il exprime ainsi son immersion dans la nature. Nous voulons nous traduire nous-mêmes en pierres et en plantes. Nous voulons nous promener en nous-mêmes lorsque nous circulons dans ces galeries et ces jardins. Le Gai Savoir est la pierre de touche d'une période particulièrement féconde pour le philosophe entre 1876 et 1882, celle que couvre le tome 2 des œuvres publiées dans la Pléiade, après Humain, Trop Humain et Aurore. Nietzsche est entré dans sa vocation de philosophe intempestif et s'est éloigné de la philologie grecque. C'est aussi le début d'une vie de voyage et d'errance avec la conception du Zarathoustra. Invité à Rome par Malvida von Mesenburg, en avril 1882, Nietzsche fait la connaissance de Lou Andreas Salomé, dont il tombe amoureux. Il se rend en Suisse en compagnie de Paul Rey. On le sait, l'amitié de cœur ne tiendra pas et leur communauté d'études va se dissoudre. En juillet 1883, il se brouille définitivement avec Lou. Elle me manque, même avec ses défauts. Maintenant, c'est comme si j'étais condamné au silence ou à une sorte d'hypocrisie humanitaire dans mes rapports avec tous les hommes, écrit-il à son ami Franz Overbeck à la fin août. Le volume 5 de la correspondance que vient de publier Gallimard couvre la période qui va de janvier 1885 à décembre 1886. Comme l'indique Jean Lacoste, qui a supervisé cette édition, une page se tourne. L'affaire Lou Salomé semble surmontée, mais ses migraines ophtalmiques font de chaque ligne écrite sur la plus modeste carte postale une épreuve surmontée. Et malgré les nombreux destinataires de son courrier, il souffre d'une irrémédiable solitude, les brouillons de certaines lettres laissant présager les craquements à venir. Dans sa quête émouvante d'une communauté d'esprit libre, il cherche toujours des amis, des disciples, des héritiers, mais que de déceptions. On peut suivre notamment ses démêlés dans ce volume de correspondance, donc ses démêlés avec les éditeurs, ses efforts pour publier Zarathoustra, même à compte d'auteur. Tout ce que j'ai écrit jusqu'ici n'est que préambule. Pour ce qui me concerne, tout s'accompagne toujours de points de suspension, écrit-il dans une lettre à sa mère. Les éditions Rivage Poche publient l'anthologie de textes et aphorismes sous le titre « Hymne à l'amitié » où Zarathoustra est très présent. Dans sa préface, Guillaume Métayer relève que Nietzsche fut un solitaire entouré d'amis. En témoigne ce fragment posthume de 1877. « Amis, vous me croyez seul ?» Accueillez donc le compagnon du solitaire. Et pour éclairer l'apparent paradoxe, ce passage du chapitre sur l'ami dans Zarathoustra, « Je et moi sont toujours trop bouillants dans leur dialogue. Comment serait-ce supportable sans un ami ?»